Radio Prague, les informations.
Social-démocratie, un référendum interne pour valider la coalition gouvernementale. Roman Ruska, un membre influent de ce parti, a été assassiné. Et enfin du football, Pavel Vrba, nouveau sélectionneur de la République tchèque. Ce sont les principaux titres de ce bulletin d'information. Le président de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, a déclaré qu'il souhaitait que les membres de son parti se prononcent pour valider ou non la coalition gouvernementale actuellement en négociation avec le mouvement ANO et les chrétiens démocrates. Un tel référendum pourrait se tenir au mois de janvier prochain. Bohuslav Sobotka a également émis des réserves sur la proposition du mouvement ANO du milliardaire Andrei Babich de geler les niveaux d'imposition durant 2 ans. Le chef de la social-démocratie doit rencontrer mercredi son homologue du parti chrétien démocrate, Pavel Bielobradek. Jeudi, Bohuslav Sobotka sera reçu par le président de la République, Miloš Zeman, qui devrait lui demander officiellement de former un gouvernement. Les experts de la social-démocratie et du mouvement ANO se sont réunis ce mardi dans le cadre de ces négociations en vue de former un gouvernement. Si ce cabinet gouvernemental devient réalité, il comprendrait également le parti chrétien démocrate. Le parti de chez SSD et le mouvement ANO entendent faire passer une loi afin d'imposer la déclaration de patrimoine pour les élus et les agents de la fonction publique. Selon le chef du groupe parlementaire ANO à la Chambre des députés, cette obligation de déclaration de patrimoine serait étendue en 2015 à tout citoyen disposant d'un patrimoine supérieur à 20 millions de couronnes, soit environ 740 000 euros. Le procureur d'État de la région d'Oustina de la Bême, Jan Jakovec, a confirmé ce mardi l'identité de l'homme assassiné lundi soir dans la ville de Chomutov. Selon les informations de l'agence de presse ČTK, il s'agit de Roman Ruska, membre influent de la branche locale du Parti social-démocrate. La police a refusé de fournir de plus amples informations. Roman Ruska a été accusé d'avoir demandé un pot de vin pour avoir manipulé les résultats d'un appel d'offres à Chomutov. Il a également été condamné à une peine d'un an avec sursis pour avoir menacé un agent de police, mais il a été blanchi. Selon le député de chez SSD de la région d'Oustina de la Bême, Yaroslav Foldina, l'affaire pourrait avoir trait aux activités commerciales de Roman Ruska et non à son engagement au sein de la social-démocratie. Comme attendu, Roman Sklenak est devenu ce mardi le nouveau chef du groupe parlementaire social-démocrate à la Chambre des députés. Sur les 46 députés du parti présent, 40 ont donné leur voix pour celui qui est actuellement le ministre du Travail et des Affaires sociales du cabinet fantôme de la social-démocratie. Roman Sklenak, qui n'avait pas d'adversaire, succède à Jeronim Tate, lequel a été contraint de démissionner de son poste et de ses fonctions à la tête du ČSSD en raison de sa participation à la réunion secrète de l'ANI qui visait à renverser le président du parti Bohuslav Sobotka. On passe au sport et au football. Pavel Vrba sera le nouveau sélectionneur de l'équipe tchèque de football. L'actuel entraîneur du Viktoria Plzeň va résilier son contrat avec le club de Bohême de l'Ouest le 15 décembre et prendra ses fonctions à la tête de la Reprezentace le 1er janvier. Âgé de 49 ans, Pavel Vrba, qui a décroché 2 titres de champion de République tchèque avec Plzeň en 2011 et 2013, remplacera Josef Pešice, qui avait succédé à titre provisoire à Michal Bilek en septembre dernier. La République tchèque n'étant pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2014, ni pour les barrages, Michal Bilek, en poste depuis 2009, avait alors démissionné. Pavel Vrba, qui doit encore diriger Plzeň pour 2 matchs de championnat et 2 matchs de Ligue des Champions cet automne, aura pour mission de qualifier la République tchèque pour l'Euro 2016, dont la phase finale sera organisée en France. On termine avec la météo. Nicole ou Nicolas, c'est votre fête ce mercredi. Félicitations. Il faut toutefois sortir couvert car il pleut sur l'ensemble du territoire, sauf sur la Bohême du Sud. En montagne, de la neige est même attendue. Les températures maximales vont de 6 à 10 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la visite à Prague du préfet de police de Paris. Celui-ci a passé 3 jours dans la capitale tchèque pour s'informer en détail des moyens et des procédures mises en place par les autorités tchèques et la ville de Prague pour combattre les graves inondations de 2002 et de 2013 et faire face à leurs conséquences. L'Île-de-France et Paris sont en effet eux aussi menacés par les inondations. Nous entendrons le préfet nous en dire plus dans quelques instants. Culture ensuite, à Prague, la Galerie Nationale fête le 90e anniversaire de sa collection d'art français, une collection assez exceptionnelle comme nous le découvrirons. Et puis comme chaque mardi, la seconde moitié de cette émission sera réservée à la rubrique Panorama, une rubrique dans laquelle sera posée la question de savoir si l'Europe centrale, une région qui fascine les intellectuels, constitue un espace culturel commun. Une conférence sur le sujet s'est récemment tenue à Prague. Radio Prague était bien entendu présente. Nous entendrons quelques-uns de ses intervenants en français. Très bonne écoute. Comme Prague, en 2002 et 2013, Paris pourrait se retrouver sous les eaux. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire de la capitale française. En 1910, dernièrement, la crue centennale de la Seine avait ainsi causé d'importants dommages. Même si ces inondations appartiennent désormais à l'histoire ancienne, 103 ans plus tard, le risque de voir déborder le fleuve qui arrose Paris est toutefois toujours bien présent. C'est la raison pour laquelle le préfet de police de Paris, Bernard Boucaud, et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Île-de-France, Jean-Paul Kiel, était à Prague la semaine dernière. Durant 3 jours, à travers des rencontres avec des représentants du ministère de l'Intérieur, de la mairie de Prague, du corps des pompiers, de la direction générale de la compagnie du bassin fluvial de la Vltava et de la police tchèque, les préfets français ont pris connaissance en détail des moyens et des procédures mises en place par les autorités tchèques et la ville de Prague pour combattre les inondations de 2002 et de 2013 et faire face à leurs conséquences. Bernard Boucaud en a dit plus sur l'objet de cette visite au micro de Radio Prague.
Nous avons déjà des relations avec nos collègues de Prague, notamment les sapeurs-pompiers qui se connaissent bien. Mais ce qui nous a intéressé avec Jean-Paul Kiel et moi-même, c'est de connaître la culture qu'a la ville de Prague et ses habitants de la lutte contre les inondations. En France, nous sommes dans une situation singulière, c'est que la dernière crue centennale date de 1910 et que nous n'avons pas eu, au cours de ces 103 dernières années, de crue d'importance comparable, qui aurait des conséquences considérables, peut-être plus importantes d'ailleurs que celle de 1910, parce que Paris a beaucoup changé. Et il y a des fragilités aujourd'hui qui n'existaient pas en 1910. Par contre, la République tchèque, et Prague en particulier, a connu des crues centennales à une cadence assez rapide, 1997, 2002, 2013, et la gestion de la crue de 2013, telle que nous avons pu l'apercevoir en France, a montré que votre pays avait su tirer les leçons des expériences précédentes et adapter la réponse à une crue de cette importance-là dans un pays moderne avec tous les équipements et les caractéristiques que l'on connaît. Donc c'était très important pour nous de rencontrer nos collègues de Prague pour qu'ils nous disent comment ils avaient tiré les conséquences de ces crues précédentes, comment ils ont géré celle de 2013, et nous repartons avec ce temps de leçons très concrètes, très précises, qui pourront nous servir pour adapter notre réponse à cette crue centennale de la Seine qui arrivera forcément un jour.
Alors justement, quelles sont les leçons concrètes que vous évoquez? Si on prend la situation à Prague entre 2012 et 2013, qu'est-ce qui a permis cette année de mieux gérer la situation?
Eh bien, nous avons eu le sentiment que l'équipement en digue sur les endroits les plus vulnérables, des digues qui peuvent être construites dans des délais très rapides, avec des sapeurs-pompiers volontaires mais qui sont très performants et qui agissent dans le cadre d'une organisation extrêmement rigoureuse, pour effectivement gagner un peu cette lutte contre la montre. Donc j'ai le sentiment que cette utilisation de digues à Meuville a montré son efficacité et a été parfaitement bien gérée par nos collègues des services de secours de Prague.
Jusqu'à quel point les situations entre Prague, la Bohême centrale, Paris et l'Île-de-France sont-elles comparables ?
Alors, je crois qu'il y a une approche qui est comparable, c'est qu'il faut pouvoir traiter, avoir une réponse globale entre l'amont et l'aval. Et je crois que c'était le cas ici. Vous êtes très attaché à cette réponse globale. Nous y attachons aussi à Paris. Il faut pouvoir disposer aussi d'un système performant de prévision des crues pour pouvoir bénéficier du maximum de temps disponible afin de se préparer. J'ai constaté aussi qu'il y avait eu une prise de conscience des populations de la nécessité de s'adapter avec calme à ces phénomènes d'ampleur exceptionnelle et qu'il y a une nécessité d'information, de sensibilisation pour que tous les citoyens aient les bonnes réactions dans ces circonstances. Et là, la fréquence des crues vous a permis d'avoir cette sensibilisation et nous pouvons nous aussi nous en inspirer pour faire des campagnes d'information auprès de la population parisienne.
Voilà, c'était donc Bernard Boucaud, le préfet de police de Paris, qui était en visite récemment à Prague. Nous entendrons son collègue, préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Île-de-France, Jean-Paul Kiel, qui était également à Prague la semaine dernière dans une prochaine émission. Là aussi, il sera question du risque d'inondation. C'est avec une série de conférences et visites guidées sur les 3 prochains mois que la Galerie nationale de Prague fête cette année le 90e anniversaire de sa collection d'art français. Denisa Tomanova a interrogé la commissaire de l'exposition, Olga Hurova, qui a rappelé la genèse et l'importance de cette collection.
En 1923, l'État tchécoslovaque commence à acheter un vaste ensemble de peintures, de sculptures, de dessins et de parchemins qui font désormais partie d'une des plus importantes collections d'art français. Ce dimanche 24 novembre, une première conférence qui se tiendra à la Galerie nationale dans le quartier de Holešovice sera présentée par la commissaire de l'exposition Olga Uhrova. L'idée d'établir une collection de peintures françaises remonte à la période qui a suivi la création de l'État tchécoslovaque, comme nous l'explique Olga Uhrova.
Le penchant de l'environnement tchèque pour la culture française est palpable à partir du 19e siècle et certainement même plus tôt. Dans tous les cas, le transfert des œuvres d'artistes français a été assuré par l'Association des artistes plasticiens de Mahanes, siégeant à Prague. C'est bien elle qui a eu le mérite de présenter plusieurs expositions clés. La toute première exposition à l'étranger des œuvres d'Auguste Rodin a eu lieu à Prague en 1902 et a fortement influencé le milieu tchèque.
Cette exposition est d'une grande importance pour l'époque et marque un tournant dans la présentation et la perception de l'art français. Olga Uhrova poursuit.
Par la suite, en 1907, une nouvelle exposition d'art français a été organisée. En 1910, une exposition d'artistes indépendants a été présentée au public tchèque et ce toujours grâce à l'association Mahanes. Et c'est donc en 1923, grâce à la participation de plusieurs historiens d'art et surtout grâce à l'indulgence manifestée par le jeune État tchécoslovaque qui avait réservé à cette occasion une grande somme d'argent, qu'une exposition importante d'art français a été organisée sous le patronage du président Tomáš Garrigue Masaryk.
Si la collection compte 9 peintures à sa genèse, elle sera complétée par d'autres œuvres au mois de novembre 1923, date à laquelle un comité tchèque composé de plusieurs historiens et collectionneurs d'art comme Václav Vilém Štech, Vincent Skramáš ou Otakar Novotný se rend à Paris pour choisir d'autres tableaux. Cela marquera le début de la formation de la collection. Parmi les premières œuvres acquises, comptons celles des peintres Pierre Bonnard, Marc Chagall ou Maurice Utriot. L'acquisition de nouvelles œuvres se poursuit jusqu'en 1938, date à laquelle est acheté le tableau de Paul Gauguin, « Bonjour Monsieur Gauguin ». Et après la Seconde Guerre mondiale, les acquisitions cessent légèrement, mais d'autres œuvres, dont notamment des œuvres cubistes, rejoignent la collection dans les années 1960, et ce notamment grâce à l'illustre collection cubiste de Vincent Kramář. Olga Urová révèle ce qui fait l'exceptionnalité de cette collection.
Il ne s'agit pas uniquement d'une sélection de noms célèbres, mais d'une volonté de réaliser un concept. À l'époque, les fondateurs souhaitaient créer un ensemble qui réunirait à la fois les œuvres de Delacroix, peintre majeur du romantisme, les œuvres des peintres paysagistes français, les œuvres des personnalités qui ont ouvert la porte à l'art moderne, telles que Cézanne, Paul Gauguin ou Van Gogh, ainsi que les œuvres de Picasso et de Georges Braque, ou celles d'artistes issus du cercle appelé à l'époque l'École de Paris. Lorsque vous parcourez la collection, vous pouvez observer de quelle façon l'expression artistique et la sculpture se sont métamorphosées. Et c'est ce qui fait l'exceptionnalité de cette si précieuse collection.
En 1957, la collection est transférée au Palais Stenberg à Prague et ce n'est qu'en 1995 qu'elle intègre le bâtiment rénové de la Galerie Nationale. La dernière acquisition, un tableau intitulé « Bateau sur la Seine » de 1901 de Paul Signac, a eu lieu en 2009. Si la collection rassemble actuellement près de 140 peintures d'artistes français, il ne s'agit pas d'une collection morte dans la mesure où la Galerie Nationale est en contact permanent avec d'autres musées du monde entier. La Galerie Nationale a récemment prêté deux natures mortes de Georges Braque datant des années 1920, dans le cadre d'une rétrospective consacrée au peintre au Grand Palais à Paris. Une autre œuvre, celle du peintre franco-néerlandais Kees van Dongen, se trouve actuellement au Palais Albertina à Vienne, en Autriche. Et au printemps dernier, un autoportrait de Pablo Picasso a été prêté au musée Picasso, qui organise également une rétrospective de l'artiste à Barcelone. La collection représente ainsi une source de travail non négligeable pour tout chercheur, historien de l'art et restaurateur. Les visiteurs peuvent ainsi admirer les fruits artistiques d'Edgar Degas, de Claude Monet, d'André Derain, d'Henri Laurence, de Camille Corot, l'autoportrait du douanier Rousseau, ainsi que certaines œuvres d'artistes français contemporains et ceux du mardi au dimanche dans le quartier pragois de Holešovice.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la seconde moitié de notre émission. Et comme chaque mardi, on retrouve maintenant la rubrique Panorama, une rubrique dans laquelle il est question cette semaine de l'Europe centrale. L'Europe centrale, aujourd'hui encore, cet espace continue à fasciner les chercheurs locaux et étrangers. Mais parfois, on le distingue mieux en l'observant de Paris que de Prague. C'est sans doute la raison pour laquelle une vingtaine de spécialistes, historiens, historiens de la littérature et philosophes, se sont réunis autour d'une publication commune, publication de l'Institut d'études slaves de Paris et de l'Université Masaryk de Brno, et ce afin de cerner les caractéristiques de cette région. Leur livre, intitulé « Culture et identité en Europe centrale », Canon littéraire et vision de l'histoire, est paru en 2011. Toutefois, même ce condensé d'analyse et de réflexion n'a pas permis d'épuiser le sujet. C'est pourquoi plusieurs de ces chercheurs se sont retrouvés récemment en Prague pour une conférence intitulée « Les canons de la culture en Europe centrale, perspectives socio-historiques », une conférence dont Lucie Draxelova et Pierre Maignan vous rapportent l'essentiel.
Panorama.
Panorama.
La conférence, qui s'est tenue le 23 octobre, s'intéressait à la culture de l'Europe centrale d'une perspective socio-historique et la concevait comme un reflet des transformations sociales. L'objectif de cette rencontre entre une dizaine de spécialistes de la région était de voir dans quelle mesure l'Europe centrale peut être définie comme un ensemble culturel cohérent. Les chercheurs présents ont consacré une première table ronde entièrement à la définition du terme des canons culturels. Voici la contribution de Michel Maslowski, professeur de littérature à la Sorbonne.
D'abord, que c'est un canon. Il y a des définitions, notamment d'une sociologue polonaise Koskowska, très bonne définition. Canon de la culture, c'est un certain nombre de références culturelles que tout le monde qui veut appartenir à cette culture doit connaître. Vous pouvez ne pas avoir lu Hašek ou Holland, mais vous savez qui c'est. pour un Polonais, Mickiewicz ou Chopin, etc., ou Dvořák pour un Tchèque. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas, on sait qui c'est, et c'est grâce à cela que je me sens tchèque ou polonais ou hongrois ou slovaque.
Pour Petr Kilouchek, directeur du département des langues romanes et enseignant à l'université Masaryk de Brno, un canon, c'est un ensemble de discours identitaires dont le rapport change dans le temps. Il complète.
Disons que c'est un ensemble de références culturelles, littéraires, cinématographiques, peinture, sculpture, architecture, etc. Et surtout les grands noms qui sont liés à, disons, à la littérature et à l'art, et à la politique et à l'histoire, qui sont en quelque sorte déposés dans la mémoire culturelle. Voilà. Et disons, c'est à cet ensemble qu'ensuite la culture se réfère, ou la population se réfère, très souvent en rapport avec leur identité.
En résumé, un canon culturel, c'est donc le plus petit dénominateur commun culturel d'un peuple. Il y a des racines anciennes à ce dénominateur, mais Petr Kilouchek, comme Michel Maslowski, souligne que les canons évoluent dans le temps. Michel Maslowski.
Il y a des racines anciennes, il y a toute une histoire, il y a l'histoire des interprétations, parce que les mêmes éléments peuvent signifier tout à fait autre chose à une autre époque, dans un autre contexte historique. Mais il y a une continuité.
L'idée de base que défend Michel Maslowski est celle qu'en Europe centrale, les peuples s'unissent par la culture et non par des institutions politiques. Selon lui, ce n'est pas un hasard si l'on se demande dans l'hymne national tchèque « Où est ma maison, où est ma patrie ?» et non « Où est mon roi ?» Pour comprendre l'importance de ces canons culturels pour l'Europe centrale, il faut remonter dans le temps, à l'époque du Haut et du Bas Moyen-Âge, étudier l'espace historique des royaumes tchèques, polonais et hongrois.
Le canon est très important en Europe centrale à cause de l'histoire très mouvementée des pays qui étaient assez puissants et qui disparaissaient. Et donc, après, c'est par la culture, au XIXe siècle, qu'ils se sont constitués. Et donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin de tribunal pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ils n'ont pas besoin de président pour se sentir représenté. Et s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. Mais c'est le consensus, quelque part, culturel qui décide. Et dans ce cas-là, on se réfère à l'histoire ancienne, évidemment. Pour Palatsky, Jan Hus a constitué la tradition tchèque, n'est-ce pas?
Petr Kilouchek, qui est lui spécialiste de l'étude des mythes, ajoute que celui qui veut se sentir tchèque fera référence à Charles IV, à Jan Hus ou à Comenius. Dans leur contribution à la conférence, Petr Kilouchek et Michel Maslowski ont proposé leur vision de la manière dont se sont imposés ces canons culturels au XIXe siècle.
Comme il n'y avait pas de pouvoir politique reconnu, parce qu'il y avait un pouvoir politique à Vienne, n'est-ce pas ? Mais il n'était pas reconnu par la population. Du coup, les intellectuels ont été reconnus par les milieux. Miroslav Hor a très bien analysé ces processus. Il y avait trois étapes. Premièrement, les élites qui définissaient. Ensuite, il y avait l'éducation, en quelque sorte, des masses qui partageaient. Après, la phase des militantismes.
La thèse de Miroslav Hroch, historien et enseignant à l'Université Charles de Prague, lui a valu une renommée internationale. Il l'a popularisée notamment dans son œuvre « Les préconditions sociales du renouveau national en Europe ». Petr Kilouchek introduit une distinction entre un canon culturel véhiculé par les élites et un canon culturel du peuple ordinaire. Selon lui, ces deux dénominateurs identitaires sont souvent différents. Néanmoins, nous avons peu de traces du canon populaire. En revanche, le canon imposé par les élites est très souvent pétrifié dans la littérature et constitue notre source d'information de l'époque.
Mais je pense que justement le canon tel qu'il s'est constitué, surtout tel qu'il s'est formulé au cours du 19e et du 20e siècle, disons par les grands éveilleurs de la nation tchèque, par les historiens, par la linguiste, par la littéraire, etc., le canon, il est en quelque sorte défini et transmis aux générations suivantes par les élites. Et je pense qu'il y a eu une différence entre, disons, cette culture élitiste, les intellectuels d'une part, et d'autre part la culture populaire. Et la culture populaire qui a d'autres références et qui peut-être est beaucoup plus universaliste, qui ressemble beaucoup plus aux cultures des pays environnants, par exemple, le mode de vie, la cuisine, etc. N'empêche que une bonne partie de la culture populaire, justement, peut entrer comme élément constitutif dans le canon national, mais ce travail se fait par le moyen des intellectuels qui récupèrent en quelque sorte cette culture populaire. C'est le cas du 19e siècle, en quelque sorte, aussi du romantisme qui a récupéré justement cette culture populaire, du folklore dans la culture nationale.
Dans la seconde partie de la conférence, les intervenants ont débattu des caractéristiques réunissant les peuples centro-européens, l'occasion pour Michel Maslowski d'opposer l'identité dominante en Europe centrale à celle d'Europe occidentale. Si les références à la mémoire et à la culture sont davantage présentes dans cette région centrale, en Europe occidentale, en revanche, c'est une identité positionnelle qui prévaut.
Schématiquement, en Europe centrale, à cause de l'importance de la culture, l'identité culturelle, et qui se réfère à des modèles culturels plus importants que l'identité positionnelle, c'est-à-dire les postes, l'argent, etc. Il suffit de lire les romans tchèques, il suffit d'aller dans une hospoda pour voir où les tchèques se sentent tchèques, n'est-ce pas? Alors qu'en Occident, domine l'identité positionnelle, c'est mes diplômes, ma carrière, et mon compte en banque, etc., qui me donne l'identité.
On termine en évoquant la contribution de Miroslav Hroch à la conférence, dans laquelle il a fourni des éléments nécessaires pour délimiter la macro-région de l'Europe centrale. Pour ce faire, il a proposé de prendre en compte trois éléments. En premier lieu, l'autodétermination, c'est-à-dire si les gens considèrent appartenir à l'Europe centrale. En second lieu, les liens internes, qui devraient être plus forts qu'à l'externe au niveau du commerce, de la culture ou de la religion. En dernier lieu, l'expérience commune ou bien l'absence d'un certain type d'expérience, comme les découvertes outre-mer au XIXe siècle. Selon Miroslav Hroch, l'importance de ces différents aspects change dans le temps. Par exemple, au XVIe siècle, il y avait un sentiment fédérateur du danger commun de l'invasion turque. Ensuite, la région était le berceau des premiers mouvements patriotiques. En revanche, après le traité de Versailles et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, cet espace a été confiné à la mémoire et à une idéologie potentielle. Mais pour Miroslav Hroch, les points communs persistent. Parmi eux, une tradition de la pluralité des confessions, une perception stéréotypée d'un ennemi venant de l'Est, soit le russe ou le turc, et une plus grande sensibilité à la diversification ethnique qui se manifeste notamment par une animosité envers les étrangers. Au-delà de la publication franco-tchèque de 2011, la coopération entre les chercheurs se poursuit notamment par le biais de conférences comme celle de Prague. Il ne s'agissait pas sans doute du dernier rendez-vous pour débattre des canons culturels en Europe centrale.
C'est ainsi que s'achève le bloc actualité qu'a eu le plaisir de vous présenter l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy !